Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission Éclairage, je vous propose de vous intéresser au regard porté aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer, comment elle s'inscrit dans notre société. Un chiffre pour commencer, aujourd'hui on estime que plus de 850 000 personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, ce qui représente 6% des personnes de plus de 65 ans. Une étude intéressante menée par l'INPES, Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé, réalisée dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, nous apporte plusieurs éléments intéressants que nous développerons au cours de cette émission. Tout d'abord, 91% des personnes interrogées souhaiteraient connaître leur diagnostic, si elles avaient des signes évocateurs de la maladie. Ensuite, cette maladie est crainte de nous tous, y compris, et cela semble plus curieux, par les professionnels de santé. Autre élément, on se rend compte qu'en parlant de la maladie, on finit par oublier, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, le patient déshumanisé. Et puis, la maladie, on s'en doute, a des conséquences importantes sur l'entourage, et notamment le conjoint ou la conjointe. Autre chiffre important, près de 40% des Français s'estiment mal informés sur la maladie d'Alzheimer. Et l'on remarque une mauvaise connaissance de la maladie. C'est par ce dernier point que nous allons commencer notre émission avec notre invité, le professeur Joël Ancry. Joël Ancry, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, vous êtes professeur de santé publique et de gériatrie, chef de service du centre de gérontologie de l'hôpital Sainte-Périne à Paris. Lorsque l'on oublie ces clés, Joël Ancry, ou lorsque l'on oublie le nom d'une personne, le trajet pour aller d'un point A à un point B, on a tendance à se dire « ça y est, je suis Alzheimer ». Ça en est même devenu une expression. Hein. Mais qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer et comment peut-on dépister cette maladie ?
C'est vrai que lorsqu'on oublie quelque chose, on oublie, ça nous arrive à tous d'oublier. Je veux dire que l'oubli est une fonction naturelle, hein. C'est quelque chose qui existe. Et au-delà de 50 ans, la plainte amnésique est quelque chose de très très fréquent. Et ce n'est pas pour autant une maladie d'Alzheimer. Ça, le premier point, c'est que l'oubli est un phénomène relativement normal et naturel des processus cérébraux. Cela dit, par moments, cet oubli peut prendre des conséquences et souvent, la personne, malheureusement, qui sera atteinte d'une maladie de la mémoire comme la maladie d'Alzheimer, se rendra pas toujours compte. Donc le plus souvent, et ça peut déjà rassurer, c'est que quand on se rend compte qu'on oublie, c'est déjà un peu plus rassurant que lorsque notre entourage s'aperçoit qu'on a oublié, qu'on a fait des erreurs, qu'on s'est trompé d'un chemin en voiture ou qu'on a oublié même de faire certains actes de la vie quotidienne, de gestion de banque ou autre chose. Alors, c'est quoi cette maladie d'Alzheimer ? Cette maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est probablement connue depuis très 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 longtemps, qui a en fait été décrite il y a à peine un siècle par un fameux neuro-anatomopathologiste allemand qui s'appelait Alois Alzheimer. Et on était dans un stade où on se posait des questions par rapport à tout ce qui était autour des maladies cérébrales. Et le grand débat qui se faisait à l'époque, c'était de savoir si les maladies cérébrales étaient organiques ou pas. Alois Alzheimer, lui, a pu décrire une forme de démence, parce que le mot était comme ça. Démence, c'est-à-dire, au sens étymologique du terme, privé d'esprit, démentia, et avait décrit cette forme de démence chez une femme jeune. C'est une femme jeune qui l'avait suivi jusqu'à sa mort, et il avait examiné le cerveau de cette dame, et en examinant le cerveau de cette dame, il avait mis en évidence des lésions caractéristiques qui feront par la suite parler de maladie d'Alzheimer.
Alors, il existe plusieurs types de maladies d'Alzheimer. Hein. Il y a celle génétique qui touche 1% des patients.
Alors, du coup, juste, si vous me permettez un petit mot historique, hein, parce que c'est justement un peu ça, c'est que quand Alois Alzheimer a décrit cette maladie, il l'a décrite pour une femme jeune. Et on savait qu'il y avait aussi ce qu'on appelait des démences séniles, avec tout ce magma un petit peu nosologique entre la sénilité, la maladie, le vieillissement normal. Et donc, on avait bien différencié la maladie d'Alzheimer comme une démence pré-sénile, démence sénile par la suite. Mais au fil des années, on s'est aperçu que ces lésions histologiques que l'on avait observées dans le cerveau, on l'observait également dans le cerveau des patients âgés. Donc, on a pu comme ça évoluer vers tout d'abord ce qu'on avait appelé un syndrome quasiment démence sénile de type Alzheimer, pour finalement, depuis une bonne dizaine d'années, 15 ans, définir une entité qui s'appelle la maladie d'Alzheimer. Au sein de cette maladie d'Alzheimer, il y a des formes à début précoce et il y a des formes à début tardif. Et dans les formes à début précoce, qui malheureusement peut toucher des gens, des personnes d'une cinquantaine d'années, voire moins, ces formes-là sont malheureusement très souvent génétiques. Et dans les formes à début tardif, qui touchent le plus souvent des personnes de plus de 60 ans, plus de 70 ans, plus de 80 ans, ce sont des formes de type sporadique où la part de génétique est beaucoup plus faible.
Cette maladie d'Alzheimer, on l'appelle également la maladie des 4 A, amnésie, aphasie, apraxie et agnosie.
Oui, tout à fait, parce que ces 4 A résument toute la symptomatologie que l'on peut trouver au stade évolué de la maladie. Souvent, le stade de début est essentiellement basé sur les troubles de la mémoire, donc l'amnésie. Mais quand on est à un stade évolué, ça la touche également le langage, avec l'aphasie. Ça touche également la reconnaissance des objets, la reconnaissance des personnes, voire même l'anosognosie, c'est-à-dire la reconnaissance d'être qu'on est soi-même malade. Et ça, c'est un problème important. Et puis l'apraxie, c'est-à-dire l'impossibilité à effectuer des gestes, même des gestes très simples. Et l'exemple le plus courant, c'est de dire faire un nœud de cravate ou boutonner sa chemise.
Alors, revenons-en à une des premières questions. Comment aujourd'hui arrive-t-on à dépister une maladie d'Alzheimer? Puisque j'imagine qu'il peut y avoir au départ des confusions. On peut penser que la personne, elle est déprimée, ce qui pourrait expliquer des troubles de mémoire.
Tout à fait. Alors, juste un petit point de vocabulaire, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de dépistage. Donc, on préfère parler de diagnostic précoce. Le dépistage, si vous voulez, il faudrait qu'on puisse être dans des situations un peu comme dans le dépistage du cancer du sein ou dans certains cancers où on a tous les éléments qui permettent à la fois d'établir une vraie politique de dépistage et des vrais moyens de prévention. On n'est pas encore à ce stade. Aujourd'hui, c'est plutôt un diagnostic précoce qui est le problème essentiel parce qu'on sait en plus que quasiment la moitié des Alzheimer ne sont pas diagnostiqués. Et donc là, on pourrait vraiment faire un effort au niveau de ce diagnostic précoce. Et souvent, même à des stades relativement évolués, on voit encore arriver des personnes qui n'ont pas eu un diagnostic de maladie. Alors, je vous disais tout à l'heure que le symptôme initial, le plus souvent, c'est le trouble de la mémoire. Le trouble de la mémoire, il est très souvent pris pour un état dépressif. Je suis déprimé, je suis âgé, j'ai eu un deuil récent, je me retrouve dans des difficultés à la fois financières, les enfants sont partis, le mari est décédé, je risque de me trouver dans une situation où j'aurai du mal comme ça à me souvenir des choses. Et très souvent, les personnes sont prises pour des déprimés. Mais toute la difficulté vient aussi du fait que les dépressions sont très souvent aussi associées avec le début de la maladie. Donc il y a une très très grosse difficulté au niveau du diagnostic de bien faire la part de ce qui est la dépression et qui peut être une fausse démence, entre guillemets, ou la dépression associée à la maladie. Parce que lorsque je commence à perdre la mémoire, même si je me rends pas très bien compte toujours, mais je perçois quelque chose qui ne fonctionne pas bien et je ne suis pas bien psychologiquement et je risque de déprimer, ce qui fait entraîner une sorte de cercle vicieux et ça va majorer mes troubles de mémoire. On sait très bien que la mémoire est très bien sous l'influence du psychisme et donc c'est quelque chose qui est assez fréquent. Donc c'est au centre de centre de consultation mémoire qui maille actuellement le territoire, qui permet à ces équipes-là de bien faire la part des troubles qui sont d'origine purement organiques liées à une maladie de type Alzheimer ou des origines purement psychogènes qui sont liées à un état d'anxio-dépression.
Mais alors, vous parlez de diagnostic précoce. Oui. Précoce, ça veut dire à partir de quel âge ?
Alors, précoce, c'était précoce dans l'évolution de la maladie. Alors, précoce, ça peut être à n'importe quel âge. Je veux dire qu'à partir du moment où on a des inquiétudes face à sa mémoire, et surtout à partir du moment où les troubles de mémoire retentissent dans les activités de la vie quotidienne, eh bien, à ce moment-là, je crois qu'il faut consulter. Et précoce, pour justement pas attendre que les symptômes soient tellement importants qu'il n'y a plus grand-chose à faire ou qu'on se retrouve face à des complications, à des risques particuliers. Et d'autre part, si demain nous aurons des médicaments très efficaces, nous l'espérons, eh bien c'est à ce stade-là qu'il va falloir traiter, au moment où justement encore il y a plein de capacités au niveau cérébral.
Alors avant d'en venir à la perception du public, à la perception sociale de cette maladie, arrêtons-nous quelques instants sur la maladie d'Alzheimer et maladie apparentée. On parle de maladies apparentées et quand on rencontre des familles, justement, dont un proche est touché par cette maladie apparentée, si on a le malheur de dire « Ah oui, la maladie d'Alzheimer », on sent un certain agacement, c'est-à-dire que ces maladies apparentées, déjà on ne sait pas vraiment nous ce qu'elles sont, de pourquoi s'appellent-elles maladies apparentées, et puis pourquoi sont-elles regroupées sous le grand titre maladie d'Alzheimer ?
Alors parce qu'en fait, je crois qu'il y a deux choses. Il y a un niveau un peu de facilité du langage, et comme la maladie d'Alzheimer ces dernières années ont quand même une connotation très médiatique, c'est plus facile d'en parler. Et pour dire je fais une action par rapport à ces troubles pathologiques, c'est plus facile de dire maladie d'Alzheimer que décliner l'ensemble des pathologies qui lui ressemblent. Et parmi ces pathologies qui lui ressemblent, qui entraînent un syndrome démentiel, c'est-à-dire une altération des fonctions cognitives retentissant dans les activités de la vie quotidienne, eh bien il y a une grande pathologie qui est quand même toute la pathologie vasculaire cérébrale qui peut entraîner des troubles tout à fait similaires. Alors bien sûr, il y a des nuances cliniques, sémiologiques, et c'est un peu le rôle des médecins de faire la part des choses. Et puis, il y a toutes les autres pathologies dégénératives qui ne sont pas l'Alzheimer au sens propre du terme, c'est-à-dire qui ne correspondent pas aux lésions décrites initialement en 1906 par Alois Alzheimer, à savoir la plaque sénile et la dégénérescence neurofibrillaire. Donc il y a d'autres maladies, il y a des maladies qu'on appelle à corps de Lévy, il y a des maladies, des démences frontotemporales, il y a toute une série d'autres cas qui nous permettent de mieux séparer, de mieux voir les différentes entités nosologiques, nosographiques, et nous espérons comme ça mieux pouvoir traiter ces patients et pas tout mettre dans un sac commun. Mais médiatiquement, je crois que c'est plus simple de parler de maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, et c'est dans le sens même du plan Alzheimer qui est en cours, pour ne pas avoir à décliner pour chaque pathologie.
D'accord, d'inclure aussi ces autres pathologies. Venons-en à la perception du public. Dans l'étude que je citais au début de cette émission de l'INPES, réalisée sur l'impact sociologique et la vision que la société peut avoir de cette maladie d'Alzheimer, voici les résultats suivants. Vous allez pouvoir nous les commenter. 83% des plus de 18 ans estiment que de plus en plus de personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, est-ce une réalité ou pas ?
Les études montrent, sur le plan épidémiologique, qu'on a en effet un peu plus de monde atteint de la maladie d'Alzheimer. Pour deux raisons. L'une, c'est qu'il y a de plus en plus de gens âgés. Et donc, automatiquement, on augmente, numériquement, automatiquement, le nombre de personnes atteintes de la maladie. La deuxième chose, c'est qu'en effet, on diagnostique plus facilement, on diagnostique beaucoup mieux. Donc, quand on regarde un petit peu l'évolution des données, on s'aperçoit cette augmentation-là. Est-ce que c'est vraiment une augmentation en termes d'incidence, c'est-à-dire de nouveaux cas ? Et je rappelle quand même que le nombre de nouveaux cas est quelque chose de très important. On parle en France d'à peu près 200 000 à 220 000 nouveaux cas d'Alzheimer par an, ce qui est énorme. Et vous savez qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de maladies pour lequel il y aurait 220 000 nouveaux cas. Je vous rappelle que certains nombres de pathologies, même graves, dont on parle beaucoup dans les médias, ne correspondent pas à cette incidence-là. Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait expliquer, en gros, entre guillemets, une sorte d'épidémie ? Moi-même, quelque part, j'avais écrit « épidémie silencieuse » à un moment donné. Non, on ne peut pas vraiment parler d'épidémie. Mais donc, on a plus de personnes qui peuvent être confrontées à la maladie et des diagnostics qui sont faits de façon plus importante.
Autre résultat qui ressort de cette étude. 64% des personnes interrogées déclarent qu'on ne peut rien faire pour guérir une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors on arrive justement à la difficulté des traitements qui sont là pour stabiliser jusqu'à un certain point.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on guérit de la maladie d'Alzheimer, ça c'est clair. Nous espérons à travers toutes les recherches qui sont menées dans le monde entier et particulièrement en France depuis peu, d'essayer de trouver les traitements qui nous permettraient vraiment d'avoir une action importante sur cette maladie. Aujourd'hui, nous disposons de médicaments qui, dans des cas non négligeables, permettent de ralentir l'évolution. De ralentir l'évolution et d'autres qui permettent de réduire certains symptômes, et en particulier certains troubles psychocomportementaux qui font toute la difficulté de la prise en charge au quotidien de ces patients, en premier pour les familles, et aussi quand les patients se retrouvent dans les milieux sanitaires pour les équipes hospitalières.
Et j'imagine toute l'importance du diagnostic précoce pour pouvoir administrer les médicaments en question.
Tout à fait. Le diagnostic précoce permet justement d'agir le plus tôt possible en essayant justement de... Puisque ces médicaments agissent au niveau des cellules cérébrales, donc il faut que les cellules cérébrales soient présentes pour que ça marche. D'autre part aussi, ça permet aussi, le diagnostic précoce, de bien prendre en charge l'ensemble des problèmes. L'ensemble des problèmes et d'essayer avec l'entourage immédiat et la personne en premier, bien entendu, de prévoir un certain nombre d'événements et de pouvoir être en amont des problèmes et d'éviter les situations de crise qui font que très souvent, quand on ne fait pas le diagnostic, ces personnes-là, un jour ou l'autre, feront un accident, un événement intercurrent et risquent de se retrouver dans le circuit, disons, hospitalier, et ce ne sera pas la meilleure des choses qu'on puisse leur souhaiter.
On parlera de la recherche en matière de traitement à la fin de notre émission. Auparavant, pour terminer, avant de marquer une pause, dernier résultat de cette étude sur la représentation de cette maladie auprès du public. Seuls 29% pensent que la maladie d'Alzheimer est souvent héréditaire. Alors on revient à cette question d'hérédité. Je pense qu'on peut pour l'instant constater, mais est-ce que réellement on peut prouver que la maladie d'Alzheimer, quand il ne s'agit pas de la forme aiguë, est héréditaire? Je vous laisse répondre.
Oui, il y a des formes héréditaires de maladie d'Alzheimer qui sont des formes du sujet jeune, très jeune, voire même des familles qui malheureusement sont atteintes de mutations chromosomiques. Et ça, j'allais dire, elles sont repérées dans le monde entier et elles sont connues, suivies, etc. La plupart des formes, c'est-à-dire 99% des formes, correspondent à des formes dites sporadiques. Et dans ces formes sporadiques, la part héréditaire est très peu importante. Alors, certains ont discuté de facteurs de susceptibilité sur le plan génétique. On a certains travaux qui vont dans ce sens-là, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une véritable forme héréditaire. Et si jamais la question est « ma mère à 80 ans a fait une maladie d'Alzheimer, est-ce que je risque de faire une maladie d'Alzheimer ?» La réponse la plus claire, c'est que la probabilité est la même que si votre mère n'avait pas fait de maladie d'Alzheimer avant.
Je vais l'ancrer, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Ils furent confrères à l'Académie française. Jean d'Ormesson vous parle de Claude Lévi-Strauss. Écoutez le témoignage de l'écrivain à l'occasion du centenaire de l'anthropologue. Il fut son parrain, mais aussi son admirateur. Jean d'Ormesson vous livre des anecdotes et des moments riches d'humanité. Claude Lévi-Strauss par Jean d'Ormesson, une émission à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Joël Ancry, avec qui nous parlons de la maladie d'Alzheimer et de l'image que nous avons de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui dans notre société. Venons-en dans cette deuxième partie d'émission, si vous voulez bien, Joël Ancry, au personnel soignant. Je me réfère toujours à l'étude de l'INPES parue en 2009, qui fait justement une étude sur l'image que nous avons de la maladie. Et quand ils abordent, quand l'INPES aborde la question du personnel soignant, on se rend compte que parfois les médecins rencontrent des difficultés, notamment la difficulté d'annoncer le diagnostic avec la peur d'annoncer un mauvais diagnostic et puis également la peur de gérer une maladie qu'on ne maîtrise pas. Alors quel est votre sentiment à vous? Parce que vous travaillez tous les jours avec des patients.
Alors c'est vrai que l'ensemble des médecins se retrouvent confrontés à une maladie, j'ai envie de dire tout d'abord pour la plupart qu'ils ne connaissent pas bien. Parce que cette maladie était peu enseignée jusqu'à une époque récente dans le cursus d'études médicales. Bien sûr, la maladie d'Alzheimer, le nom était donné, mais ça devait durer quelques minutes dans un cours général de neurologie. Mais il n'y avait pas du tout un enseignement qui était fait sur le diagnostic et la prise en charge de cette maladie. Donc, première chose, c'est-à-dire que toute cette génération de médecins se sont trouvés confrontés à ces difficultés-là, ce qui a fait justement qu'on a été obligé d'organiser et de développer autour de certaines catégories professionnelles, comme les psychiatres, les neurologues et les gériatres, les centres mémoire, et de développer auprès d'eux ces lieux de diagnostic. Premier point, c'est celui-là. Le deuxième, c'est que c'est vrai comme toujours, le médecin se trouve confronté face à un patient et lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle annoncée, c'est un moment très délicat, très difficile, très douloureux, très douloureux, bien sûr, pour le patient, mais aussi pour le médecin. Et face à ce moment-là, à la façon de s'exprimer ou d'exprimer une mauvaise nouvelle, un mauvais diagnostic, un diagnostic pour lequel on a, c'est un pronostic très défavorable qui est face au patient, le médecin n'est pas aussi toujours formé. Là encore, je pense qu'on a besoin dans notre pays de mieux former nos médecins à cette approche de la mauvaise nouvelle. A fortiori, quand en plus il va se trouver face à une pathologie pour laquelle le patient n'allait plus être capable de pouvoir gérer sa propre maladie. On n'est pas face à un cancer dans lequel le patient va pouvoir essayer de se battre, de lutter, de participer à son traitement. Là, on sait très bien qu'à un moment donné, il risque de lâcher pied et qu'il ne va plus comprendre vraiment ce qui lui arrive. Et donc là, le médecin, il se met quelquefois en position un petit peu de retrait. Et puis, aujourd'hui, on forme de mieux en mieux les médecins à l'approche de cette maladie, à l'approche de cette annonce de diagnostic. Et je crois que c'est très, très important que les personnes, et comme tout un chacun, vous rappelez tout à l'heure que 91% de la population française aimerait savoir s'ils sont atteints de cette maladie, mais qu'on puisse les accompagner correctement avec des consultations dédiées qui soient suffisamment longues pour pouvoir permettre de comprendre cette maladie, de l'expliquer.
Alors, toujours dans les chiffres, justement, vous parliez de ces personnes qui souhaiteraient savoir s'ils sont touchés par la maladie, oui ou non, 91%. Mais les personnes qui vont recevoir l'information, une personne sur deux n'était pas contente des informations qui leur avaient été données à l'annonce du diagnostic. Et là, je reprends une citation de Serge Revzani dans son livre « L'éclipse ». Parmi de nombreuses autres citations, mais là, je prends cette petite phrase. « Comme le dit le neuropsychiatre avec qui il avait affaire, comme le dit le neuropsychiatre, ma femme est une morte sans cadavre. » C'est plutôt curieux de la part d'un neuropsychiatre.
C'est même curieux de la part d'un médecin, tout simplement. Je veux dire que c'est là toute la difficulté. Vous faites allusion à ce livre de Resvani, qui est un très très beau livre sur son épouse qui a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et la dureté des propos du neuropsychiatre, même ce mot même de mort sans cadavre, est quelque chose de très pénible. Et justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire au niveau de l'annonce diagnostique et je crois que c'est très très important, même si on a affaire à une maladie grave, même si on a affaire à une maladie avec toutes les difficultés que l'on connaît, il faut justement pouvoir aider les personnes, aider leur entourage et en particulier leur entourage familial. Il faut pouvoir aider l'ensemble du couple, la personne qui est atteint de la maladie et ce qu'on appelle son aidant le plus proche.
Venons-en justement aux accompagnants, aux conjoints, à la famille proche. 93% des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête quantitative approuvent l'idée que la maladie d'Alzheimer peut avoir des effets dévastateurs sur la famille des malades. Quels sont ces effets dévastateurs ?
C'est très, très, et je le dis en toute conscience, que c'est un moment très difficile et très douloureux pour une famille d'avoir un de ses parents atteint de la maladie d'Alzheimer. Et les effets dévastateurs peuvent se faire de façon très variable selon le moment, la personne, le membre de la famille atteint, l'âge à laquelle il est atteint. Et pensez ce qui peut se passer sur une personne d'une cinquantaine d'années, mariée avec des enfants encore jeunes, qui se retrouve atteinte de cette maladie, ou d'une autre personne, alors là, une grand-mère isolée, qui ne voit pas vraiment sa famille, qui est atteinte de cette maladie. Donc tous ces éléments-là vont retentir. Il est important de tenir compte, et ça c'est je crois quelque chose d'essentiel, de tenir compte en permanence de ce couple aidant-aidé. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont à risque de morbidité, c'est-à-dire de pathologies, et pas simplement des pathologies psychologiques, pas simplement des éléments dépressifs, mais aussi de pathologies somatiques, d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, voire même, on sait qu'il y a un surcroît de risque en termes de mortalité.
Ils somatisent.
Ils somatisent, mais aussi, ils font plus, toutes les études le confirment bien, hein, par rapport aux populations, aux personnes du même âge, dans les mêmes conditions, qui n'ont pas à prendre en charge une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, eh bien, ils sont plus à risque de faire des maladies. Et ça va retentir sur leur travail également, ça va retentir sur leur vie familiale, ça va retentir sur les relations au sein de la famille, avec le conjoint. Vous savez que dans toutes les études en France et même ailleurs, on sait que les personnes qui s'occupent des personnes âgées, disons dépendantes, pour ne pas dire simplement l'Alzheimer, sont essentiellement les filles et les belles-filles. Et les fils et les beaux-fils et les gendres s'occupent plutôt des papiers. Mais le reste, le vrai travail au quotidien, c'est les filles et les belles-filles. Et donc, vous vous rendez compte que là, ce que ça peut entraîner également au niveau de retentissement sur la vie de couple, sur la vie familiale, sur les relations avec le conjoint, mais là, de l'aidant, il y a toute une série d'éléments très importants. C'est pour ça que nos actions et nos actions thérapeutiques vont bien sûr vers le patient, mais vont aussi vers la prise en charge de l'aidant. Et c'est par
une écoute de l'aidant.
Pardon ?
Une écoute.
Non seulement une écoute, aussi une aide aussi à la vie quotidienne. Chez nous, nous avons organisé depuis des décennies des réunions avec les familles ou des groupes un peu de familles s'entraident même pour pouvoir avoir des réponses à l'évolution de la maladie, des réponses à la prise en charge de problèmes psychocomportementaux. Qu'est-ce que je fais face à ça ? Qu'est-ce que je fais lorsque ma personne atteinte de la maladie me dit telle et telle chose ? Est-ce que je dois lui dire non ? Est-ce que je dois mentir ? Est-ce que je dois la faire croire que sa mère est encore vivante alors qu'on sait très bien qu'elle est décédée depuis 50 ans ? Vous voyez, tous ces éléments-là sont des éléments essentiels qu'il faut accompagner dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment un point très très important. Et puis bien sûr, il faut pouvoir, en termes de structure sanitaire et sociale, pouvoir offrir des solutions de répit. Offrir des structures qui permettent de prendre en charge les personnes et qui permettent de souffler un petit peu, parce qu'on sait que c'est important pour justement que la personne puisse continuer son aide, mais aussi de pouvoir répondre un peu aux autres questions et de savoir, vous savez, que notre système sanitaire et médico-social est d'une complexité épouvantable. Il est un système hyper fragmenté et c'est très difficile, même quand on est spécialiste, de pouvoir se repérer. Alors imaginez-vous les familles lorsqu'elles se trouvent confrontées à savoir si elles ont droit à telle allocation, à telle aide, à tel service à domicile, à telle action, etc. Il y a une volonté d'uniformiser un peu tout ça, d'avoir ce qu'on appelle des services intégrés qui intègrent l'ensemble des possibilités. Il y a un gros travail à faire en ce moment.
La transition est toute trouvée, merci Joël Ancry. Dans l'attente du public, et notamment des gens principalement concernés, on retrouve en peloton de tête la multiplication des établissements spécialisés, vous allez pouvoir nous en reparler dans quelques instants, et puis également chercher à soulager la famille, vous en parliez, et j'imagine que ce plan Alzheimer mis en route en 2008 et qui s'étend jusqu'en 2012 avec un budget d'un milliard à un peu plus d'un milliard et demi d'euros va contribuer à essayer d'agrandir ces structures si elles existent ou de les créer.
Tout à fait. Et je pense que le plan, je suis même sûr que le plan Alzheimer a mis un axe très important sur le soutien aux aidants. Hein. Sur le soutien aux aidants et aussi à travers des structures. Vous savez que dans le plan Alzheimer, il y a la mesure 4, je crois, qui concerne les MAIA, les maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui vont probablement se généraliser un peu plus et qui vont se développer au niveau du territoire national pour justement permettre, à travers un guichet unique et un système de gestionnaire de cas, de pouvoir répondre aux demandes des aidants. Les aidants, les familles, hein, quand je parle d'aidants, là je parle d'aidants, comme disent les Québécois, naturels, c'est-à-dire les familles, sont complètement désemparées. Alors bien sûr, en face, il y a des médecins, bien sûr, il y a des infirmières qu'on peut trouver dans le quartier, etc. Mais le plus souvent, je vous le disais tout à l'heure, ces médecins ne sont pas assez formés. Là, l'idée, c'est de pouvoir avoir justement un guichet unique où s'adresser et en fonction de la situation, en fonction du cas, pouvoir être bien pris en charge. L'autre élément, c'est d'avoir des éléments de répit. Et il y a des structures plutôt sociales qui essayent de permettre ce répit-là. Il y a des innovations qui essayent de se faire, en particulier au Québec. Il y a quelque chose qui n'est pas trop mal et qui me semble intéressant, parce qu'un des gros problèmes, c'est que lorsqu'on veut parler de répit, c'est-à-dire qu'on va dire à la personne atteinte de la maladie, souvent à un stade évolué, bah vous allez quitter la maison et pendant une semaine, on va vous mettre dans un établissement aussi.
Pour quelqu'un qui manque de repères, c'est peut-être pas forcément évident que de mettre cette personne en institution quand elle a ses repères.
Justement, c'est pour ça que je voulais parler de l'expérience québécoise, qui est une expérience québécoise qui malheureusement ne se développe pas beaucoup et qui pose de nombreux problèmes sur le plan législatif. C'est Alzheimer Baluchon. C'est un système au Québec qui permet une équipe, une personne, de venir vivre à domicile. Et en fait, remplacer la famille pendant un certain temps, pendant ce temps, la famille peut se reposer ailleurs. Et la personne est toujours dans son milieu. Elle la connaît, il y a tout un travail qui se fait en amont, un travail qui se fait en aval. Et ça permet justement de bien prendre en charge la personne sans avoir à la sortir de son milieu pour permettre à la famille de se reposer.
car, faut-il le préciser, mais de plus en plus de personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer restent au domicile. Il n'y a pas forcément une institution qui va pouvoir accueillir. J'imagine qu'en psychiatrie, en gériatrie, il y a des places disponibles, mais est-ce vraiment là où ces personnes doivent être ? C'est aussi une des questions qui se posent.
C'est une question très difficile qui se pose. C'est que, est-ce qu'il faut être jusqu'au boutiste en matière de maintien à domicile ? J'ai tendance personnellement à dire que tant qu'on peut rester au domicile, il faut le favoriser. Et c'est essentiel. Et justement, développons tous les systèmes d'aide possibles à domicile, sanitaires et médico-sociaux, sous toutes les formes que ce soit, pour permettre à ces personnes de rester dans le milieu familial, de rester à la maison. Quelquefois, il s'avère que c'est impossible. Et donc, il faut bien qu'il y ait des structures d'hébergement après. Et dans ces structures d'hébergement, l'expérience a montré qu'il vaut mieux avoir des structures d'hébergement spécialisées.
Médicalisées.
Médicalisées et spécialisées. C'est-à-dire qu'avec un personnel formé pour pouvoir prendre en charge ce type de problème. Et en particulier, il y a un grand événement dans l'évolution de cette maladie que sont les troubles psychocomportementaux qui font qu'à ce moment-là, même quand il y a un certain nombre de moyens matériels, c'est pas toujours facile de prendre en charge à domicile. Et donc, il vaut mieux passer la main pour
un stade avancé de la maladie.
Oui.
On marque une deuxième pause, si vous voulez bien, Joël Ancré. Dans la troisième partie de cette émission, nous parlerons des traitements en cours, des recherches en cours en matière de traitement et du gérontopôle aussi de Toulouse parmi les recherches actuelles. A tout de suite.
Comment le cerveau du mathématicien se mesure à la réalité mathématique ? David Ruel, membre de l'Académie des sciences, dresse le portrait de plusieurs célèbres mathématiciens, depuis Newton jusqu'à Alexandre Grothendieck. Les hommes sont-ils les créateurs des mathématiques ? Réponse en compagnie de David Ruel à travers son livre « L'étrange beauté des mathématiques » dans une émission « Au fil des pages », une émission libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Joël Ancré. Dans cette troisième partie d'émission, Joël Ancré, je vous propose de revenir sur les traitements qui seront peut-être disponibles dans quelques années. Faut-il se réjouir ? Faut-il être prudent ? Vous nous direz ça dans quelques instants. Et puis également, donc bien sûr, on parle des traitements médicamenteux, mais quelles sont aussi les alternatives à ces traitements ? Est-ce que l'aromathérapie, la musicothérapie ou des exercices de mémoire sont intéressants pour essayer de maintenir une partie de la mémoire de ces patients touchés par la maladie d'Alzheimer? Commençons peut-être par ce qui existe actuellement comme traitement.
Oui, il existe en effet des traitements depuis maintenant une quinzaine d'années à peu près, qui sont des traitements dits symptomatiques de la maladie d'Alzheimer, qui ne guérissent pas malheureusement, mais qui améliorent les symptômes ou qui ralentissent l'évolution de la maladie. Ça ne marche pas pour tout le monde. Ça marche pour un certain nombre de personnes et c'est tant mieux. Et c'est déjà un énorme progrès. On a vécu l'arrivée de ces médicaments-là qui sont marqués différemment, qui sont apparus vraiment apportant quelque chose par rapport à une substance pharmacologiquement inerte qui est le placebo. Ces trois médicaments qui sont actuellement, ou quatre médicaments qui sont actuellement sur le marché, qui ont eu leur autorisation de mise sur le marché aussi bien en France qu'en Europe, voire à l'étranger, sont des médicaments qui agissent sur une substance au niveau du cerveau qui est moindre chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est cette substance qu'on appelle acétylcholine. Donc actuellement, ces médicaments-là, tous agissent par ce biais-là, en inhibant une enzyme qui dégrade cette substance-là, donc favorise la circulation au niveau du cerveau de cette substance, donc qui favorise donc les processus mnésiques, entre autres. Face à ça, on développe, il y a beaucoup de recherches qui se font pour trouver des nouvelles pistes thérapeutiques. Et tout à l'heure, je disais qu'il y avait, depuis la description initiale, deux lésions fondamentales. Une lésion qui était la plaque sénile, dont on sait que la composition essentielle, c'est de l'amylose. C'est une protéine anormale qui vient composer cette amylose. Et donc, tous les travaux essayent de comprendre la cascade des étapes biochimiques qui se font pour pouvoir arriver à la freiner. Et la deuxième lésion, c'est la dégénérescence neurofibrillaire, dont on sait aussi qu'il y a une protéine qui intervient qu'on appelle la protéine Tau. Et là encore, toutes les recherches se font pour essayer de pouvoir éviter que cette protéine tau se forme et se phosphoryle et donc pouvoir avoir son action parce que les deux éléments vont entraîner, la plaque sénile et la dégénérescence vont entraîner la mort cellulaire. Donc c'est là-dessus que d'énormes recherches sont faites, de nombreux essais thérapeutiques. Ça reste encore aujourd'hui des essais thérapeutiques qui n'apportent pas tout le bénéfice que l'on attend. Il y a encore, à mon avis, beaucoup à faire. Mais je pense que demain, nous pourrons avoir un certain nombre de médicaments, de substances qui vont permettre, soit seuls, soit associés à d'autres, de ralentir vraiment et d'agir vraiment sur le processus évolutif. Juste encore un point, parce que sûrement, vous avez entendu parler du vaccin.
Eh oui.
Et du vaccin qu'on préfère appeler de l'immunothérapie, ça vient d'une expérimentation qui avait été faite en 99, autant que je me souvienne, par une équipe californienne, l'équipe de Schenck, chez des souris transgéniques. Chez des souris transgéniques, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de modèle vraiment animal de la maladie d'Alzheimer. Donc on construit, on fabrique des souris qui vont faire les lésions de la maladie d'Alzheimer, et en particulier la plaque d'amylose. Et lorsque Schenck a injecté une substance, la protéine, à la souris, eh bien, il s'est aperçu que la plaque du cerveau, là, elle perdait son volume, elle était devenue plus petite. Et quand il l'injectait avant l'âge à laquelle la souris faisait sa plaque, la souris ne faisait pas de plaque. Et donc, il s'est dit, c'est merveilleux, on a une thérapeutique. Alors malheureusement, on s'est tout de suite, quasiment tout de suite, j'exagère un peu, lancé sur des essais thérapeutiques chez l'homme. Et ça a entraîné des problèmes, puisqu'il y a eu un certain nombre de cas mortels de méningoencéphalopathie. Donc, on est face à des médicaments potentiels, des pistes de recherche sur lesquelles beaucoup d'équipes au niveau du monde entier essayent de travailler pour pouvoir trouver ces substances. L'industrie pharmaceutique également fait beaucoup de choses là-dessus pour essayer de développer cela. Il y a des réflexions à avoir même sur tous les mécanismes. Ça nous apporte plein d'éléments sur le mécanisme même qui entraîne les lésions de la maladie d'Alzheimer. Donc aujourd'hui, on est encore avec nos médicaments qui ont toujours leur mise sur le marché. Demain, on aura peut-être d'autres médicaments. Cela dit, le médicament ne résume pas le soin. Et il y a aussi toute une prise en charge non médicamenteuse. Alors cette prise en charge non médicamenteuse, c'est vrai que d'un point de vue purement scientifique, on aimerait pouvoir l'évaluer aussi bien qu'on évalue nos médicaments, avec les mêmes méthodologies, la même rigueur hein, au niveau de méthodologique. Mais il y a quelques papiers, quelques expérimentations qui montrent que ça apporte quelque chose. Ça tourne autour de la stimulation cognitive, ça tourne autour de la prise en charge, d'utiliser tout ce qui peut être fait par nos neuropsychologues au niveau des connaissances que nous avons au niveau de la mémoire, de tous les processus cognitifs et qui permettent aussi à la personne de se sentir dans une ambiance qui est favorable. Et c'est aussi quelque chose d'important. Il faut, et je crois que c'est important de le dire, il faut faire attention, il ne faut pas mettre en échec les personnes.
Et les stimuler sans les mettre en échec.
Tout à fait, parce qu'il faut bien voir les situations, c'est que la mise en échec est épouvantable et que ça entraîne même, voire même, ça peut générer une certaine agressivité de la personne. Donc, il y a un rejet de toute la prise en charge. Et il faut même le dire aux familles, parce que quelquefois, pour bien faire, ils ont envie de leur faire apprendre des choses, leur faire réciter, etc. Et c'est pas la bonne solution. Par contre, il y a des techniques qui permettent justement de stimuler, j'allais dire, dans le plaisir. Et ce qui permet à la personne d'être détendue et de pouvoir utiliser, parce qu'on sait que le cerveau est quand même plastique et que si on ne peut pas, j'allais dire, aller de A à B dans son cerveau, on peut essayer de trouver des moyens pour passer par C pour arriver à B. Et donc, c'est un peu toutes ces techniques-là sont basées un peu sur cette approche-là. Et c'est essentiel en complément des thérapeutiques médicamenteuses et de la prise en charge.
D'où l'aromathérapie, par exemple, ou la musicothérapie?
Ça peut être l'aromathérapie, la musicothérapie. Il y a une chose que j'aime bien dire aussi, mais alors, il n'y a pas un grand stratum anatomique, mais c'est vrai que très souvent aussi, par rapport à la musique, c'est de dire que quelque part, dans cette maladie, on retient la mélodie, on oublie les paroles. Et pouvoir essayer de retravailler sur la mélodie et les paroles, c'est quelque chose qui permet, une technique qui permet aussi d'apporter des choses.
Comme vous le disiez, il y a beaucoup de recherches. Hein. Plusieurs laboratoires travaillent sur de nouveaux traitements à apporter. Des traitements qui ne verront pas forcément le jour tout de suite, hein, précisé pour malheureusement pour les gens, les familles, hein, les proches qui attendent beaucoup de la recherche.
On comprend très bien, je veux dire, que les familles, les patients tout d'abord, leurs familles immédiates et nous tous, soignants, nous attendons ça avec impatience. Nous espérons que l'on pourra un jour pouvoir bien vaincre cette maladie. Et je tiens à souligner que le plan Alzheimer a été en France à cette volonté de pouvoir mettre en place un système au niveau de la recherche tellement performant qu'on espère qu'on va avoir des choses, hein, on va avoir des résultats, j'y crois. Mais bon, c'est pas aujourd'hui, c'est pour nos patients, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas, il n'y a pas de solution immédiate. Et il faut bien voir aussi une chose, c'est que probablement, pour les patients qui se trouvent à des stades très évolués de la maladie, dont on peut penser qu'une grande partie des cellules cérébrales ont souffert, on n'aura pas tout de suite quelque chose. Par contre, pour tout ce qui est des formes précoces, on va pouvoir, je pense, avoir des réponses.
Merci Joël Ancry. Pour terminer, est-ce que vous auriez un mot à dire aux aidants, aux accompagnants qui ont toute leur place dans cette maladie ?
Un mot, c'est plus qu'un mot. Non. C'est vraiment de leur dire qu'on comprend tout à fait leur souffrance et qu'il faut que nous, les soignants, nous, les médecins, on puisse les aider au jour le jour à affronter cette maladie, à les aider dans le quotidien. Et il n'y a pas de honte de s'occuper des choses quotidiennes et de les aider également en espérant, grâce aux recherches, à avoir un jour une thérapeutique qui leur permette d'être soulagés vraiment.
Merci Joël Ancry et je l'espère à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Merci de m'avoir invité.